Il est midi et oui, c'est l'heure des bonnes choses. Bienvenue à toutes et à tous. C'est l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur et comme enjeu global. Une émission qui, jusqu'à 12h30, vous propose un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. La cerise, c'est Pierre Hiverna. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Vous dirigez la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale qui est notre partenaire. Vous nous proposez la cerise sur le gâteau aux alentours de 12h25. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous emmener en Seine-et-Marne, dans un coin assez perdu à la visite d'une ferme assez particulière.
On en saura plus tout à l'heure. Bonjour, chère Natacha Triot.
Bonjour, Caroline.
La madeleine, c'est le souvenir gustatif d'une personnalité aux alentours de 12h15 aujourd'hui.
Aujourd'hui, l'écrivain René de Secati.
Et c'était jeudi, la journée mondiale des réfugiés. Et à ce titre, les bonnes choses y font écho. Comment éviter de manger de la soupe au porc quand notre religion nous l'interdit, mais qu'on arrive de Syrie et qu'on est dans un centre d'accueil en France? Eh bien, en se tournant vers le Réchaud, une association qui propose aux réfugiés une cuisine gourmande et solidaire. Comment trouver un travail quand on est cuisinier et qu'on arrive de loin? Eh bien, en rejoignant, par exemple, l'équipe du Refugee Food Festival qui met à l'honneur des chefs étrangers dans des restaurants pour faire découvrir leur cuisine. Ces deux entreprises, parmi d'autres, sont des projets culinaires et solidaires qui partent de l'idée que la cuisine est un lien, voire un ciment entre les individus, qu'elle est un facteur d'intégration et un trait d'union même entre les populations. Quand l'hospitalité est dans l'assiette et l'insertion dans la cuisine, c'est notre plat du jour.
Paris est la seule capitale au monde qui accueille le plus grand nombre de communautés ethniques et religieuses. Donc explorons toutes ces communautés au travers du prisme de la cuisine, ce que je sais faire.
C'est super. On est au fin fond du 19e. Là, vraiment, je suis plongé en Afrique noire.
Ce qui m'a marqué, ce qui m'a ému, c'est cet amour de ces étrangers à l'égard de Paris et de la France. Ils témoignent tous de l'accueil qu'ils ont reçu, en quoi la cuisine a été un vrai remède au déracinement, à l'intégration.
C'est pas seulement un restaurant qui est destiné à faire manger les gens du foyer, c'est aussi quelque
l'insertion, pour faire l'insertion, voilà. C'est un restaurant social, quoi.
Bonjour Marine Mandrila.
Bonjour Caroline.
Vous êtes la fondatrice avec Louis Martin de l'association Food Sweet Food qui est à l'origine du Refugee Food Festival dont la 4e édition a lieu en ce moment même et jusqu'au 30 juin à Paris, mais pas seulement à Paris, on va y revenir. On aurait pu entendre là, ce qu'on a entendu, c'est un extrait d'une série documentaire qui est actuellement diffusée sur Canal+, c'est l'extrait des Paris du Globe Cooker de Fred Chesneau. On aurait pu finalement entendre votre série Very Food Trip qui est à l'origine du Refugee Food Festival, on va en parler dans quelques instants. Vanessa Krisev, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef à domicile, en tous les cas c'est à l'origine, vous étiez chef à domicile, vous êtes chef cuisinière tout court. Vous êtes la fondatrice du Réchaud. Le Réchaud, c'est l'acronyme de refuge, chaleur, optimisme. Et nous allons bien entendu expliquer de quoi il retourne aussi. Peut-être d'ailleurs qu'on peut commencer par la genèse de vos deux entreprises culinaires et solidaires. Donc au départ, pour vous Marine Mandrila et le Refugee Food Festival, un very food trip, c'est-à-dire un voyage culinaire à travers le monde en 2013. Vous invitiez avec votre compagnon, donc Louis Martin, à manger chez l'habitant. C'est de là que tout est parti?
Exactement, on a fait un premier voyage en 2013, puis un deuxième deux ans plus tard. Et notre objectif, étant tous les deux un passionné de cuisine et deux passionnés de voyage, c'était vraiment de découvrir le monde au travers de sa cuisine populaire, traditionnelle, quotidienne. Donc concrètement, on a traversé 18 pays en allant quasiment systématiquement cuisiner et manger avec les gens qu'on rencontrait. Donc on rencontrait des locaux sur les marchés, dans les transports, on faisait les courses ensemble. Et les marchés, c'est aussi une source intarissable de connaissances du pays. On cuisinait ensemble, mais vraiment encore une fois des recettes populaires. On ne parlait pas vraiment de gastronomie au sens propre. Et on partageait le repas ensemble. Et c'était presque au final pour nous un alibi pour provoquer ces rencontres. Et on avait vraiment l'intuition dès le départ que ça allait être via cette découverte de la cuisine populaire qu'on allait apprendre des choses sur une famille, une ville, une région, un pays. Mais globalement, ce qui est assez dingue, c'est que dans tous les pays, quelles que soient les cultures, les catégories sociales, les zones urbaines reculées, on a toujours été accueillis à bras ouverts par des familles qui nous ont ouvert leur fourneau, par des mamans, des grands-mères, des petites filles qui nous ont ouvert leur foyer. Et c'est vraiment, effectivement, cette hospitalité, je crois, qui a donné l'essence du Refugee Food Festival à notre retour, où on a aussi nous souhaité accueillir peut-être un petit peu plus dignement les nouveaux arrivants en France.
Alors c'est justement, non pas l'hospitalité pour Vanessa Krisev, pour le Réchaud, mais peut-être le manque d'hospitalité en France qui a donné naissance à cette association, un sentiment d'impuissance Florence, qui est né à peu près à la même époque, hein, en 2016.
C'est complètement concomitant. On s'est rencontrés en mai 2016, au moment où on lançait l'association Le Réchaud. Et en fait, c'est un double constat. C'était à la fois notre expérience, puisqu'on est plusieurs femmes à l'origine et on était donc deux cuisinières à l'origine. C'était le constat qu'en atelier de cuisine, ce côté table fédérait et mettait sur un rapport d'horizontalité et permettait aux gens de se découvrir. Donc nous, on vient aussi du team building et de l'atelier de cuisine. Et c'est comment mettons aujourd'hui notre expertise et notre expérience de cuisinière, de restaurateur ou de restauratrice pour se questionner sur la question de ce que signifie restaurer aujourd'hui, restaurer l'humain, restaurer le monde. Et ça vient dans un contexte de crise qu'on connaît et de crise existentielle de la trentaine. On se dit, mais en fait, comment on se positionne dans ce monde étrange et pas toujours très ami, un peu hostile. Et donc, voilà, de ce constat aussi d'un accueil pas forcément digne des populations réfugiées, parfois même scandaleux, comment est-ce qu'on répare et comment est-ce qu'on invite à notre table, mais surtout, comment est-ce qu'on cuisine ensemble et qu'on fait cuisiner les gens ensemble autour de grands ateliers collaboratifs pour ensemble se restaurer et restaurer le monde.
Se restaurer, restaurer le monde, oui, vous jouez sur l'ambivalence du verbe restaurer, en misant aussi sur la découverte des traditions culinaires qui sont propres à chacun, soit des personnes qui arrivent, hein, des réfugiés, soit justement des Français qui peuvent accueillir. Il y a ce point commun entre le Réchaud et le Refugee Food Festival, peut-être Marine Mandrela.
Effectivement, l'un des objectifs et du Réchaud et du Refugee Food Festival, je crois que c'est aussi de faire découvrir des saveurs, des produits, des cultures culinaires venues d'ailleurs et contribuer aussi à préserver ces patrimoines culturels qui, nous on en est persuadés, contribuent à enrichir nos sociétés d'accueil. Et la cuisine, c'est par essence une histoire de migration. Et on pense que c'est extrêmement important de donner aussi une autre image du Yémen, de la Syrie, de l'Éthiopie, de l'Irak, de l'Iran, de la Tchétchénie, etc., au travers de tous ces produits, de ces saveurs, de ces savoir-faire ancestraux qui sont aussi transmis de génération en génération et qui permettent, en fait, extrêmement simplement pour tout le monde, parce qu'on mange tous trois fois par jour, de s'ouvrir un petit peu sur ce qui se passe en dehors de chez nous.
Marine Mandrela, pour le Refugee Food Festival, racontez-nous comment ça se passe. Des chefs, alors ça a commencé en France et puis progressivement, justement, ça s'est étendu en Europe et au reste du monde. Des chefs confient leurs fourneaux à des cuisiniers réfugiés le temps d'une soirée ou le temps de plusieurs jours.
Exactement. Très concrètement, c'est donc un festival culinaire parce qu'il y a une vraie programmation. C'est né à Paris en 2016 et ça s'est effectivement étendu maintenant à 15 villes du monde. Et très concrètement, des restaurateurs ouvrent leur cuisine et collaborent avec des cuisiniers réfugiés statutaires, des personnes qui ont obtenu l'asile en France en l'occurrence, et qui créent ensemble des menus à quatre mains qui mettent à l'honneur la cuisine du chef invité. Donc c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de professionnels aussi, parce qu'il y a un moment où il y a aussi un dialogue entre deux professionnels. Et donc après, ça se passe dans plein de restaurants. En tout, cette année, il y a plus de 150 restaurants, du 3 étoiles à la cantine de quartier. Et c'est aussi une manière pour les restaurateurs de montrer un petit peu leur solidarité, d'apprendre aussi voilà, des nouvelles techniques, des nouveaux produits, des épices, des saveurs qui viennent d'ailleurs. Et puis effectivement de contribuer un petit peu à l'insertion professionnelle des cuisiniers réfugiés qui participent au festival.
Et vous savez quoi ? On en a un au téléphone avec nous, chef qui participe au Refugee Food Festival. Et ce, depuis la première édition, c'est la quatrième hein, cette année je le rappelle. C'est Stéphane Jégot de l'Ami Jean à Paris. Bonjour Stéphane Jégot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Juste pour nous donner en quelques mots le pourquoi du comment vous participez depuis la première édition à ce festival. D'ailleurs, vous êtes l'un des parrains du festival. Pour quelle raison ?
Le pourquoi du comment est simple. C'est déjà une rencontre de cœur. C'est une ouverture par rapport à ce qu'on faisait nous déjà à la Mijan. Et c'est vraiment la rencontre avec Marine et Louis sur un projet moi, qui me sensibilise. C'est un projet quand même qui est extrêmement intéressant. C'est comment sur le partage, sur la jonction de différentes cuisines des humains, surtout, c'est sur un projet humain, simplement de comment pouvoir réinsérer des personnes dans la société française par le biais de la gastronomie.
En quoi, Stéphane Jégot, la cuisine favorise-t-elle l'insertion ? Pourquoi ? C'est un langage universel ? C'est quoi ? Parce que vous ne parlez pas forcément toujours les mêmes langues avec les cuisiniers et cuisinières avec qui vous travaillez. En l'occurrence, là par exemple, pour la deuxième fois, vous travaillez avec une chef géorgienne, Magda Gheghenava. Elle a appris à parler français, mais au départ, vous vous échangiez pas nécessairement dans vos langues, sinon par les ustensiles, les produits que vous cuisinez. C'est ça qui fait que ça rassemble ?
C'est justement ça qui est intéressant. Je parle pas anglais, je parle pas arabe, je parle pas géorgien, mais je parle un langage universel. Le langage d'avoir la responsabilité de faire à manger pour nourrir l'autre. Et je pense que ce langage-là, il est universel dans le monde entier. Donc avec Magda, qui a eu un parcours autre qu'un parcours de cuisinière, et donc comment est-ce qu'on a pu communiquer, simple, qu'est-ce qu'on fait à manger aujourd'hui? Et voilà, tout simplement, comme chaque personne se met devant son fourneau, et se dit, mais qu'est-ce qu'on fait à manger? Et Magda et moi, on s'est mis comme ça, et voilà, on a commencé à parler. Alors c'est vrai que maintenant, on a les moyens modernes de communiquer. Et là, mais par le premier jet, c'est la nourriture. Donc, quelque part, le langage est universel. Et c'est de ça, justement, qui est intéressant. Et c'est ça qu'on veut faire nous passer. C'est que ce langage est vraiment mondial, universel, mais on base surtout une chose sur des codes gastronomiques. Et le mot gastronomique est extrêmement important. C'est qu'on ne va pas juste pour dire on fait une gamelle, on fait à manger. Non, on pousse justement sur l'excellence humaine, l'excellence des produits, les artisans, producteurs, éleveurs.
Stéphane Jégot, il faut que vous arrêtiez de parler, parce que je vous rappelle que vous êtes censé travailler en ce moment même avec Magda Guéguenava, puisque vous êtes en train de cuisiner ce brunch qui est dans le cadre du Refugee Food Festival, donc il ne faut pas la laisser toute seule en cuisine, il faut que vous retourniez là-bas.
Et sachez que mademoiselle Magda est suffisamment là pour me taper sur la tête et dire arrête, on y va.
Bon, allez-y. Merci beaucoup d'avoir témoigné pour les bonnes choses de France Culture, Stéphane Jégot de La Mijan. Juste un mot avant d'entendre la Madeleine, à vous Vanessa Christophe, puisque je crois que le Réchaud participe au Refugee Food Festival. De quelle façon?
Eh bien, pour la première année, on a accueilli une chef éthiopienne, Ayat, qui est venue vendredi dernier, donc en pré-ouverture de notre première table du Réchaud. Donc, on a, pour la première fois, on se sédentarise en ouvrant un restaurant dans le 16e arrondissement, dans un centre d'accueil pour réfugiés. Restaurant donc ouvert sur l'extérieur pour tisser du lien social avec la population parisienne. Et donc Ayat est venue cuisiner avec Valentine Guénin, notre chef cuisinière de la table, autour de l'injera, donc qui est une spécialité éthiopienne et qui a donc fait sensation vendredi.
À vous, nous en parlerez tout à l'heure. Juste après la Madeleine de Natacha Triou, qu'on va écouter tout de suite, puisque c'est l'heure de la Madeleine dans Les Bonnes Choses sur France Culture. Vous aussi, vous nous emmenez en voyage, Natacha, d'une certaine façon.
Oui, enfin, c'est pas moi, c'est René
la personnalité du jour.
René de Secati, voilà, qui est romancier, dramaturge, traducteur. Il vient tout juste de publier Mes années japonaises aux éditions Mercure de France. Et c'est un autoportrait qui raconte combien le Japon l'a durablement marqué. Sa Madeleine est un biscuit japonais. Nous parlons donc en ce moment d'insertion par la cuisine. René de Secati nous rappelle comment, dans ses expériences du lointain, la gastronomie aussi est un réconfort et un retour aux racines.
Il y a un biscuit auquel je suis très attaché, qui est un biscuit japonais, mais qui en fait est tout à fait occidental, et qui est un biscuit qui s'appelle un sablé hato. Hato, en japonais, ça veut dire le pigeon, la colombe, et qu'on ne trouve que dans un seul endroit, qu'on trouve à Kamakura, donc près de Tokyo. Et on vend ce biscuit dans une seule boulangerie, qui s'appelle Toshimaya. C'est un gâteau tout à fait récent, qui est devenu très populaire dans les années 50. Donc c'est un gâteau récent, mais qui est devenu un peu mythique et représentatif de cette ville pour certains. Et il y a certains plats japonais, ou en l'occurrence c'est pas un plat, c'est une pâtisserie, qui ont une place particulière pour moi parce qu'ils sont justement pas complètement japonais, ils sont pas des plats complètement exotiques. Là en l'occurrence c'est une recette occidentale, hein, les gâteaux japonais sont différents de ça, de ce sablé, mais ils sont réinterprétés. Et c'est une des choses qui m'a le plus frappé pendant mon séjour au Japon, c'est le fait que certains plats, certaines pâtisseries sont complètement transformés, transfigurés par le goût japonais, par des habitudes japonaises, et sont absolument exquis. Et il y a quelque chose qui me semble très très représentatif du Japon dans la transformation, la manière que le Japon a de prendre d'autres éléments culturels en faisant quelque chose qui lui est propre. Mon arrière-grand-mère faisait, alors qu'elle était extrêmement âgée, faisait des sablés. Elle avait quelques spécialités comme ça. Mon arrière-grand-mère était une vieille albigeoise, fermière, fille de fermier, qui s'était installée d'abord en Algérie, puis après en Tunisie. Et on peut imaginer, je ne suis pas sûr, c'est une hypothèse, que le goût du hato sablé, de ce gâteau de Kamakura, me rappelait le gâteau que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, fabriquait. Mon arrière-grand-mère était aveugle, donc elle avait évidemment très peu d'autonomie, mais elle avait une autonomie parfaite en cuisine. Et donc elle faisait, comme ça, quelques spécialités qu'elle avait, dont celle-là.
Dans ce gâteau japonais, René de Secati, merci beaucoup, Natacha Triou, Marine Mandrila, Vanessa Krissev, on entendait l'écrivain parler de cette idée de transformer des produits, des éléments liés à une culture propre d'un pays pour les faire sien. C'est pas ça le cœur de votre travail à l'une et à l'autre avec le réchaud d'un côté, le Refugee Food Festival?
Ce qui est assez amusant, c'est, je pense aussi à la discussion qu'on a pu avoir tout au début avec Mohamed El Khaldi.
L'un des cuisiniers syriens qui fait partie justement du Refugee Food Festival, qui est presque l'ambassadeur.
Et ben, c'est cette cartographie, en fait, de la cuisine. Enfin, finalement, c'est de la sociologie, quoi. Mais c'est de voir comment les populations se sont appropriées, ont transformé. Et nous, on le voit quand on va sur les camps, sur les centres d'accueil et qu'on anime des ateliers de cuisine, et ben on se retrouve en proposant de faire par exemple un dal de lentilles. Alors nous, on va plutôt partir sur un dal indien, et puis on a les Afghans qui arrivent en disant c'est pas du tout comme ça qu'on fait un dal, et donc ils vont nous proposer un dal à côté qui est un dal afghan, et donc c'est comme ça des plats qui ont été transformés.
Mais on peut parfois s'engueuler très très fort justement sur la façon de faire en disant non, c'est mon identité, c'est l'identité du pays, c'est...
Mais là, finalement, tout se côtoie dans l'assiette.
On peut en venir aux mains à cause d'une recette de cuisine, parce qu'on considère que c'est pas la bonne façon de faire aussi. Donc
la paternité du houmous.
Eh oui.
Je peux vous dire que
ça crée des guerres.
Ça crée des guerres, donc on peut pas non plus tout enjoliver en disant, oh, bah, finalement, la cuisine, c'est un partage.
Non, mais du coup, il y a deux clans qui se font, et puis il y en a un qui fait le dal afghan, celui qui fait, et puis finalement, quand on se retrouve pour manger, bon, bah, tout le monde, ça met d'accord tout le monde.
Mais ça montre, Marine Mandrila.
Ça montre aussi à quel point c'est viscéral, quoi, la cuisine. C'est aussi quelque chose qui rapporte à son identité, à là où on est né, à sa maman, à notre enfance, à quelque chose d'hyper intime. Donc c'est à la fois totalement universel et un terrain de rencontre incroyable, et en même temps quelque chose qui est un élément de fierté, un élément de qui raconte quelque chose de vraiment profondément qui on est.
Vous en parlez avec les cuisiniers, les chefs réfugiés qui arrivent, de ce que représente justement la cuisine pour eux?
Nous, on avait fait un questionnaire, un quiz très rapide de 5 questions. Quand on avait lancé le réchaud, on avait fait un crowdfunding, et pour un peu animer les réseaux, on avait fait 5 questions posées à plein de chefs ou pas, enfin des personnalités, dont qui cuisine le mieux pour toi, ou quel est ton plat préféré. Et c'est vrai que toujours c'était ma maman, quoi. Donc c'est là où on se rend compte que c'est le cordon ombilical et qu'il y a quelque chose de... Et puis dans la cuisine, il y a cette relation de confiance aussi, Stéphane le disait tout à l'heure, mais se laisser nourrir par quelqu'un ou nourrir quelqu'un, c'est les racines de la vie, donc on en parle, ouais. Et surtout, il se dévoile beaucoup à travers cette signature.
Il y a le partage, Marine Mandrila, mais il y a aussi l'insertion par la cuisine. Et en particulier dans le Refugee Food Festival, vous avez pour ambition que les cuisiniers trouvent du travail ou même s'installent dans un restaurant. Depuis 2016, je crois que 157 cuisiniers réfugiés de 43 nationalités différentes ont participé au projet. Est-ce que du point de vue de l'ambition ou de la réussite professionnelle, c'est successful, pour le dire en bon français?
On a mené une mesure d'impact avec un cabinet externe soutenu par le HCR en 2018 pour comprendre vraiment quel était l'impact en termes d'insertion professionnelle des cuisiniers qui participent au festival. Et cette étude nous a révélé que 60% des cuisiniers ont eu une débouchée positive directement après le festival. Ça veut dire directement un contrat, ça veut dire une formation ou ça veut dire lancer leur activité. Donc c'est un bon chiffre, même si on peut aller beaucoup plus loin, et notre objectif c'est de mettre l'accent davantage là-dessus et surtout déjà de bien comprendre quelle est l'envie et l'ambition de chacun cuisiniers qui participent. Est-ce qu'il y a un besoin en formation? Est-ce qu'il y a un besoin en cours de langue appliqué à la restauration? Est-ce qu'il y a besoin d'une formation en gestion pour lancer un restaurant ou un service traiteur? Et donc nous on intervient plus comme tiers de confiance qui va réussir à orienter et à faire vraiment à comprendre les différents freins à l'emploi. Et ensuite d'orienter. Et puis ensuite de ça, nous, on travaille avec une série d'acteurs acteurs de la restauration, voilà, qui sont soit des grands groupes, soit effectivement tout le tissu de restaurateurs indépendants en France, pour connecter tout simplement les cuisiniers qui cherchent un contrat, qui cherchent un emploi, et de l'autre côté, les restaurateurs qui recrutent. Et il y en a beaucoup.
Alors, exemple avec Magda Guéguenava, dont on parlait tout à l'heure avec Stéphane Jégot. Stéphane Jégot est allé retrouver Magda Guéguenava, mais Magda Guéguenava est sortie de ce brunch qu'elle propose en ce moment même, puisque nous sommes dimanche, et que ce dimanche 23 juin, c'est le temps du Refugee Food Festival, et que dans ce Refugee Food Festival, Magda Guéguenava, avec Stéphane Jégot, propose un brunch en ce moment. Hein, ça a commencé il y a quelques minutes, et c'est jusqu'à 15 ou 16 heures. Magda Guéguenava donc est avec nous par téléphone. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Et vous, Magda Guéguenava, vous arrivez donc de Géorgie, mais vous n'étiez pas du tout cuisinière, vous teniez un cabinet dentaire. Vous aviez envie de cuisiner quand vous êtes arrivée à Paris. C'est le Refugee Food Festival qui vous a donné envie de cuisiner, ou ça s'est passé dans l'autre sens?
En fait, comme j'ai déjà dit au monde, en Géorgie, beaucoup de femmes qui cuisinaient à la maison pour les invités qu'il a toujours chez nous à la maison. Et en fait, il y a beaucoup de les femmes géorgiennes, ils les cuisinaient vraiment très très bien. Mais il y a exceptionnel aussi le talent. Et j'ai pas dit comme je suis comme ça, mais en fait, ici en France, j'ai trouvé le professionnel cuisinier avec le Food Festival. Et ça commence en 2017. Comme j'ai fait premier festival avec le Refugee Food Festival, je suis très contente. Après 2018, il m'a proposé encore, mais avec grand chef Stéphane Jégot. Ça passe très très bien, tout le monde contente. Là, je te proposais Tchakapouli. Qu'est-ce que je vous propose cet dimanche aussi, avec Tchakokbili, poulet, tomate. Et khachapuri, j'ai préparé aussi, il y a prali épinards, il y a beaucoup de choses.
Qui sont des plats traditionnels géorgiens?
Exactement, tout le qu'est-ce que j'ai dit, c'est vraiment, c'est le plat chaud avec le veau qui est préparé dans vin blanc, avec 6 différentes herbes. Et les autres aussi, c'est vraiment un plat traditionnel, entrée.
Vous avez, Magda Guéguenava, été la chef du restaurant La Résidence, qui est le restaurant repère du Refugee Food Festival de juin à décembre 2018. Exactement. Et là, depuis le mois d'avril et jusqu'en octobre 2019, vous avez votre propre restaurant, le restaurant donc éphémère, puisque c'est quelques mois, mais quand même au grand marché Stalingrad de la Rotonde à Paris. C'est ça votre ambition aujourd'hui, d'avoir un restaurant à vous en France?
Oui, en fait, tout le monde connaît comme je voudrais. C'est un moment project pour ouvrir un petit restaurant à Paris. Mais c'est très difficile toute seule parce que c'est compliqué. Alors, pour les débuts, je remercie vraiment Refugee Food Festival parce que c'est Refugee Food Festival qui m'a aidé pour trouver cette place, pour ouvrir. Même le Stéphane, il est toujours avec moi. Il aide à m'expliquer. Alors maintenant, je travaillais dans la Rotonde de Stalingrad. Il y a petite chaleur, très très bon restaurant, petite, que vous trouvez vraiment traditionnel, cuisine géorgienne.
Et oui, c'est ça. Vous proposez une carte qui revisite les saveurs géorgiennes, et en ce moment même, donc, dans le cadre de ce brunch au Refugee Food Festival, vous nous proposez avec Stéphane Jégot des plats qui sont à la croisée, à la rencontre de la France et de la Géorgie. Merci beaucoup, Magda Guéguenava. On va vous laisser faire votre cuisine avec Stéphane Jégot. Juste un dernier mot, Marine Mandrila, puisque Magda Guéguenava est un exemple parmi d'autres, mais Nabil Attar aussi est un réfugié syrien qui a pu ouvrir un restaurant aujourd'hui à Orléans.
Rue de Bourgogne à Orléans, en fait, on a créé l'année dernière un petit restaurant au sein de Ground Control dans le 12e qui s'appelle La Résidence.
À Paris.
À Paris, absolument. Et qui a vocation à accompagner des cuisiniers réfugiés dans leur projet professionnel, mais projet entrepreneurial. Ça veut dire qu'ils viennent avec nous pendant une période de 6 à 8 mois pour tester leur carte, se familiariser avec les fournisseurs, apprendre à gérer une petite équipe, apprendre leur stockage et vraiment adapter leur cuisine au palais français avant de se lancer. Le premier cuisinier, ça a été Nabil Attar, qui a ouvert il y a pile un an son restaurant qui s'appelle Narenge à Orléans, rue de Bourgogne, qui est absolument incroyable, et j'encourage tout le monde à aller manger chez Narenge. Et effectivement, Magda ensuite, qui a ouvert chez Magda à Stalingrad, et on accueille là début juillet un jeune cuisinier syrien qui s'appelle Aitam, qui a fait cuisine mode d'emploi, qui est aussi un autre bel outil de formation et de réinsertion, et qui sera avec nous jusqu'à décembre avant de lancer sa propre activité à Paris aussi.
Bon, comme on a cité beaucoup de noms, beaucoup de lieux, que ce soit le centre à Excellence qui ouvre tout juste, je crois qu'il ouvre dans quelques jours, le 26 26 juin.
On inaugure à partir de 18h la table du réchaud.
Et ouvert au grand public.
Ouvert au grand public et qui pour la première fois va aussi faire de l'insertion professionnelle avec des personnes non professionnelles mais qu'on souhaite accompagner jusqu'à l'embauche. Alors que jusqu'à présent, on était vraiment uniquement sur la question de l'inclusion sociale.
Donc je termine ma phrase. Nous mettrons tous ces noms de lieux, des noms de restaurants sur notre page internet des bonnes choses. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Mais surtout, restez avec nous et ne partez pas pour écouter la chronique de l'ami Pierre Hiverna dans un instant. Cher Pierre Hiverna, vous nous emmenez visiter un village potager.
Voilà, je vous emmène en réalité du côté de Nemours. Nous sommes en Seine-et-Marne, à une heure de Paris en gros, où se trouve une magnifique ferme entourée de 40 hectares de terre. Alors vous me direz, c'est encore un grand céréalier, un exploitant forestier? Eh bien non, car le chemin qu'ont suivi Hélène et Étienne Falise, qui animent cet endroit exemplaire, les a amenés à développer un projet bien différent, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Au départ, l'histoire de ce couple a un goût de déjà beaucoup vu. Ingénieur, entrepreneur, travaillant dans de grandes entreprises, un téléphone portable vissé sur chaque oreille, vie urbaine trépidante. Et puis en 2016, arrêt devant un miroir, grande question sur le sens de tout ça. Et puis toute la famille fait ses valises, direction le tour du monde. Le voyageur Étienne reste néanmoins un créateur d'entreprises en observation et Hélène en profite pour peaufiner sa passion pour les problématiques de développement durable. Ils avaient entendu parler de la ferme enchantée de Gawad Kalinga, à Angat, perdue aussi aux Philippines, et décident d'aller y faire un tour. Le tour va se solder par 2 mois de travail comme bénévole, car ils sont totalement fascinés par l'intelligence de cette ONG. La ferme est en réalité un incubateur d'entrepreneurs sociaux, dont l'objectif principal est de combattre l'extrême pauvreté et de trouver de l'emploi à tout le monde. En plus de 15 ans, Gawad Kalinga a sorti 1 million de personnes de l'extrême pauvreté et les prévisions sont fixées à 5 millions d'ici 2024, en construisant plus de 2500 villages sur tout le territoire philippin. Alors évidemment, Gawad Kalinga ne s'appuie pas seulement sur les produits alimentaires, mais Hélène et Étienne étudient de près cette idée de village, de communauté, de lieu de vie et d'échange. Retour en région parisienne, à la recherche de terres et de bâtiments pour développer leur projet qui s'appelle Village Potager.
Oui, mais est-ce que c'est vraiment transposable à la Seine-et-Marne ?
C'est vrai, Caroline, du point de vue de l'échelle, on voit pas très bien comment ça peut marcher. Mais en réalité, Étienne et Hélène découvrent, en revenant en France, la loi Hamon. Vous en souvenez peut-être, c'est une loi qui permet aux sociétés commerciales qui poursuivent un objectif d'utilité sociale et qui décident de s'appliquer à elles-mêmes les valeurs de l'économie sociale et solidaire, de bénéficier d'un certain nombre d'aides, entre autres. Ils mettent pas mal de temps à trouver le lieu idéal avec suffisamment de terres à cultiver. Mais la semaine dernière, avait lieu enfin l'inauguration officielle du village potager du pays de Nemours, qui en fait a déjà fait ses preuves depuis un an qu'il fonctionne. Excusez du peu, 17 emplois en insertion créés, dont 6 maraîchers, 30 emplois induits, une formation en maraîchage, 6000 m2 de serres construites, création d'une AMAP pour la vente directe, le tout en appliquant des principes d'agroécologie et 100% bio depuis l'origine. Et le village potager est aussi un lieu de rencontre et de découverte, avec notamment un village équestre pour des balades et randonnées en forêt de Fontainebleau. On ajoute 3 gîtes à l'intérieur d'une ferme rénovée du XVIIIe siècle et un autre bâtiment pour des colloques et conférences. Et vous avez une entreprise qui tourne et des gens visiblement heureux, car l'économie solidaire apporte des satisfactions de très haute qualité. Et ce ne sont pas nos invités d'aujourd'hui, Caroline, qui me démentiront.
D'ailleurs, elle sourit en vous regardant, en écoutant votre chronique. Et voilà un lieu supplémentaire que nous mettrons donc sur notre page, bien sûr, des bonnes choses. Et sur la vôtre, alimentation en général, à réécouter, à podcaster sur le site franceculture.fr. Merci à tous les trois. Bonnes choses se poursuivent donc en réécoute et en podcast sur notre site franceculture.fr. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Sophie-Catherine Gallet, Natacha Triou, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Alexandre Dang, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, eh bien c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weissmann. Bon week-end à tous.